Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Et bonjour, si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie du MAG de l'IMO, si c'est le cas, pas de panique, vous pouvez retrouver toutes les chroniques, toutes les interviews et même l'intégralité de la première partie en podcast sur notre site radio.imo, sur notre application et sur tous les agrégateurs de podcasts. Mais je vous conseille de ne le faire que d'ici une petite heure parce que pour l'instant, on a de très belles choses à venir. Avant de tout vous annoncer, laissez-moi resaluer Fabienne Lissac qui est avec moi ce matin. Fabienne, comment ça va ?
Ça va très bien, je suis très contente de commencer l'année. Avec cette magnifique émission dont tout le monde nous parle, on découvre à chaque fois des personnalités formidables parce que les managers, on les connaît, mais il y a derrière des hommes, des femmes à la personnalité souvent très épaisse et très riche.
Et c'est comme ça en général qu'ils dirigent et qu'ils tiennent le cap de leur entreprise. On va voir si c'est le cas avec notre invité. Je pense qu'on va passer une belle émission. Boris Capel est avec nous. Il est le président de Savills France. Est-ce que vous allez bien ?
Ça va très bien. Bonjour à toutes les deux.
Ravi en tout cas de vous recevoir ce matin. Alors on va représenter, j'espère pas vous faire l'affront en vous le demandant, représenter les activités de Savills France.
Avec plaisir. Savills France, en fait, on fait partie d'un groupe relativement large qui regroupe à peu près 40 000 personnes à travers le monde. C'est un groupe de conseil en immobilier. Nous sommes implantés à peu près partout où le soleil se lève de par le monde. Et en France, on est un peu plus petit, mais on est en fort développement. On est environ 180 personnes actuellement. On recouvre 8 métiers et on va continuer à développer ces métiers. On est présent à Paris et on est présent aussi en région. Et là encore, on va continuer à se développer. Les métiers qu'on recouvre sont les métiers de l'agence, les métiers du RCM, c'est-à-dire tout le résidentiel bloc ou l'immobilier géré, l'investissement, le retail, tant du point de vue de l'investissement que de la location, la logistique, ce qu'on appelle le BPC, le Building Consultancy, c'est de l'AMO pardon, et du Technical Due Diligence, de l'expertise ou encore du Property Management. Tout ça, ça fait un groupe qui fait à peu près en France 180 personnes. Pour la petite histoire, on était à une petite centaine il y a 3 ans, donc on croit relativement vite. Et en termes de CA, on a, malgré les crises, retrouvé à peu près notre CA de 2019 qui nous avait permis de croître notre CA d'environ 47%. Donc là encore, on développe et on essaye de continuer à développer en proposant une approche un petit peu alternative au secteur immobilier.
C'est vrai que hors de l'immobilier, tout le monde ne connaît pas encore cette marque Savills. Il faut quand même rappeler que c'est un groupe fondé au Royaume-Uni en 1855, l'une des principales entreprises de conseil en immobilier au monde, vous le disiez. Que représente la France sur la cartographie de Savills et que pensez-vous du marché français ?
Alors il y a ce que représente actuellement la France. On est encore une goutte d'eau dans cet océan Savills parce que Savills, c'est près de à peu près 2 milliards de CA en livres sterling. La France doit représenter à peu près 24 millions d'euros. Donc c'est une petite goutte d'eau, mais qui n'a de cesse de se déployer. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Savills a besoin, comme tous les groupes, de jouer sur plusieurs espaces, plusieurs géographies pour mutualiser les risques et aussi pour offrir un service global. Donc on a vocation à développer et à croître. J'espère que la prochaine fois que je vous verrai, on aura pu encore avoir une belle histoire de croissance parce que c'est tous nos objectifs.
C'est vrai que vous faites apparemment des études, des recherches, du conseil en immobilier, du conseil en investissement. J'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce que vous ne faites pas ? Vous couvrez toute la chaîne de valeur dans l'immobilier ?
Aujourd'hui, sur le marché conseil, on essaye de couvrir à peu près l'exhaustivité des chaînes de valeur. Je crois qu'on commence à les couvrir. On veut renforcer les différents métiers qu'on a en place et puis on veut créer un vrai maillage national. Parce que, comme beaucoup de pays, il y a Paris, mais il n'y a pas Paris et le reste du monde. La région est très importante aussi pour nous. Donc on a ouvert Nice, on a ouvert Lyon, on espère pouvoir ouvrir Lille et Bordeaux. On a d'ores et déjà des bureaux de représentation à Lille et Bordeaux, mais on considère qu'on peut faire beaucoup mieux aussi en région.
L'objectif. Surtout en ce moment. Et surtout, je rajoute surtout en ce moment, où les petites métropoles et les villes moyennes se développent fortement.
Ben ça va dans le sens de l'histoire, absolument. La Covid a renforcé un peu la présence des régions.
Vous l'aviez anticipé, ça ?
Pas du tout, on est porté par le marché comme beaucoup de monde. Mais finalement, c'est peut-être une bonne chose. On va peut-être désenclaver aussi Paris, donc c'est pas mal.
Vous avez un objectif, vous parliez de la manière dont vous êtes en train de faire maillage du territoire. D'ici 3 ans, 5 ans, vous dites que vous serez présent dans combien de villes ou comment vous organisez les choses?
Idéalement, 5 ou 6. Hein, les villes majeures pour pouvoir avoir aussi une taille critique et puis pénétrer ces différents marchés périphériques en respectant les spécificités du métier. Et j'aurais pas l'arrogance d'envoyer des Parisiens pour expliquer à des Bordelais leur marché. Donc ce qu'il faut surtout, c'est respecter les gens du cru. Donc le faire avec intelligence et calme.
Et s'appuyer sur des locaux.
Absolument.
C'est tout l'immobilier que vous déplacez à chaque fois ou est-ce que ça peut être juste un pôle, le tertiaire ou le résidentiel ?
Alors ça sera... On a quand même une... En France, en premier lieu, de développer le tertiaire. Le résidentiel le sera tout autant, mais peut-être pas sur la même stratégie. En France, on va, pour le tertiaire, développer en nom propre. Il n'est pas improbable que sur le résidentiel, nous allions augmenter notre maillage avec des franchisés. Donc il y a deux approches un tout petit peu différentes.
Quelle vision portez-vous sur le télétravail en tant que manager ? J'en parle parce qu'en début d'année, le mot est sur toutes les lèvres, ça demande pas mal d'adaptation. Et il y a votre vision de manager et puis l'impact sur votre métier. Les bureaux sont de l'avenir, c'est pas tout à fait peut-être ce qu'ils ont été il y a 5 ans, il y a 10 ans.
Alors il y a deux questions dans votre question. Il y a la question du day-to-day business en tant que manager. Et là, quel qu'eût été mon secteur d'activité. Je ne crois pas au tout télétravail parce que je pense que le télétravail casse une partie de ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'homme, les valeurs, le tutorat, etc., etc. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un creuset, un flagship, un centre, une colonne vertébrale et le bureau représente un véritable intérêt. En revanche, ce qu'on a démontré pendant la Covid, c'est que le télétravail est un outil et qu'on peut avoir une continuité d'exploitation grâce au télétravail. Il ne faut pas oublier que le télétravail s'est inscrit dans la nécessité. Et on s'est rendu compte que ça pouvait marcher. Mais on a vu aussi, dans un premier temps, tout ce qui pouvait marcher dans le télétravail. C'était les premiers mois du télétravail où, en plus, il faisait beau, il ne faut pas l'oublier. Et au fur et à mesure, on a commencé à voir ce qui ne marchait plus. La distanciation sociale, l'isolement, la perte des valeurs, les jeunes qu'on a du mal à intégrer parce que il faut leur transférer un savoir, il faut leur apprendre un métier. Et tous autour de cette table, on a appris auprès de quelqu'un. On a toujours cherché un tuteur et on veut apprendre et on veut aller plus loin. Ensuite, il y a la notion de valeur. Je pense que une société qui crée autour d'un web, autour d'une toile et qui agrège des compétences perd totalement ses valeurs. On va se retrouver avec une somme de compétences mais sans aucune centralité. Et puis il y a des rapports un petit peu opportunistiques. Pour ma part, c'est une période que j'ai vécue et qui a été testée aussi ma solidité comme c'était toutes les solidités des managers au sens global parce que ça a été un moment difficile pour nos employés mais ça a été un moment d'isolement aussi et difficile pour les managers parce que ça a demandé beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'engagement et c'était un moment un tout petit peu compliqué et le résultat finalement c'est que au fur et à mesure qu'on continuait nos différents confinements, tant les managers que les employés nous disaient « faut que ça cesse, faut qu'on revienne au bureau ». Et le rapport du home sweet home s'est réellement créé. Donc je pense que c'est un outil, je pense qu'il faut l'intégrer et ça amène au deuxième sujet dont vous parlez, c'est-à-dire quel est l'avenir du bureau et comment on intègre l'outil télétravail. Il y a deux éléments qui sont le point de vue de l'employeur et le point de vue de l'employé. Pour l'employé, ça crée une certaine satisfaction, ça crée aussi une certaine liberté et une meilleure qualité de vie. Pour l'employeur, ça peut être aussi une opportunité, parce qu'il faut être aussi retrouver un cynisme économique, de faire des économies sur les coûts par poste. Dans les deux cas, il y a une convergence sur sur la notion du télétravail et sur l'intérêt du télétravail. En revanche, les objectifs à atteindre ne sont pas forcément les mêmes. Et il faut trouver ce juste équilibre. Mais ça va impliquer derrière une réorganisation des espaces de travail, Ce qui va jouer sur la flexibilité des espaces de travail. Donc, à une époque, on parlait d'immobilier simplement par rapport à sa localisation. Maintenant, il va y avoir un couple localisation et efficience des bâtiments, parce qu'il va falloir qu'ils puissent fonctionner avec le télétravail. Le deuxième élément, c'est que ça va renforcer la centralité des bâtiments, c'est-à-dire que tous les bâtiments doivent être rapidement connectés, nécessairement au web, mais aussi à des transports en public rapides, parce qu'il y a des gens qui vont vivre un peu plus loin de leur lieu de travail, etc. Enfin, ça va peut-être renforcer les mixités d'usage. Au total, ça va faire qu'il y a des bureaux qui vont se renchérir dans leurs besoins et d'autres qui vont peut-être sortir du stock, qui seront obsolètes. Et cette obsolescence, va falloir aussi l'anticiper. Et là aussi, c'est un des points où on s'oriente vers la diversité de nos métiers. Je vous ai parlé du RCM. Le RCM, c'est du co-living, c'est de la résidence gérée, c'est des RTA, etc., etc. Et il y a des potentiels de reconversion du bureau vers autre chose. Donc il va y avoir d'un côté un renforcement des valeurs, un marché très ambivalent, et de l'autre côté de la sortie de stock. Mais cette sortie de stock se fera par le haut parce que les valeurs atteintes par les produits annexes sont élevées.
Vous avez parlé un instant du télétravail et de ce nouveau monde que vous avez à gérer en tant que manager. On va voir comment certains de vos collaborateurs le vivent. Parce qu'on a effectivement contacté Alain Brunschweiler. Il est directeur du développement, la stratégie chez Savills. Et justement, on va voir cette stratégie que vous avez mise en place, et notamment de ce contexte tout à fait hors norme de la pandémie, comment c'est perçu. On l'écoute. Alain Brunschweiler, bonjour. Vous êtes le directeur développement stratégie chez Savills. Et donc, vous pratiquez au quotidien Boris Capel. Depuis quand travaillez-vous avec lui ?
Écoutez, je travaille avec Boris depuis maintenant 3 ans. Mais nous nous sommes rencontrés dans le milieu professionnel depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. Et cette rencontre, d'ailleurs, a été assez amusante puisque c'était sur un mandat que nous avions en commun qui concernait la reconstruction et la vente d'une tour à la Défense. Et je pense que ça a été le mandat le plus long que nous ayons eu puisqu'il a duré à peu près 10 ans avant que nous aboutissions sur ce sujet. Et pendant 10 ans, nous n'avons pas réussi à nous fâcher, bien au contraire, nous avons réussi à trouver beaucoup de sujets en commun.
Quel type de manager est-il ?
Boris met un point d'honneur, en tous les cas, être un manager très attentionné. Il est toujours animé par la volonté de bien faire. Il a vraiment envie d'aider les autres et de bien comprendre les situations. Et en parallèle, il est attaché effectivement à des valeurs humaines du type courtoisie, politesse, honnêteté, équité. Donc c'est sa façon de manager. En parallèle, il a un autre aspect que les gens connaissent peut-être un petit peu moins bien. Il est effectivement très curieux de nature, ce qui lui donne effectivement une ouverture d'esprit qui est particulièrement intéressante. Et pour preuve d'ailleurs, à titre personnel et puis même dans l'entreprise, il aime tout ce qui est nouvelles technologies, les nouveaux outils, les nouvelles méthodes d'approche commerciale. Ça fait partie de son ADN.
Ce profil presque parfait, hein, vous me disiez, aussi bien la forme que le fond, ça n'en irrite pas certains ?
Il est aujourd'hui un président qui, notamment pendant cette période un petit peu compliquée, a su allier effectivement ses propres valeurs, sa créativité, au profit du développement pour Savills, de redonner une dynamique et de fédérer les équipes. Je ne pense pas effectivement que ce soit une preuve d'être un peu lisse, mais bien au contraire, c'est une façon qui est à mon avis tout à fait intéressante de fédérer les gens.
Merci beaucoup Alain Brunschweiler de nous avoir donné quelques éléments sur la personnalité de Boris Capel. Merci, au revoir. C'est rare d'écouter hein, le ressenti des collaborateurs. Et lorsqu'on les écoute, on comprend que c'est allé vite pour vous. Ça vous donnait cette impression de facilité. Directeur chez Savills en 2008, directeur général adjoint de Savills France depuis 2017, aujourd'hui président. Les étapes qui sont des haies pour les autres, vous les franchissez très facilement ?
Non, je pense que j'ai été porté par la chance.
Et effectivement, je suis passée un petit peu vite sur votre parcours, mais vous avez travaillé notamment dans un domaine de l'immobilier, mais très financier. Vous venez du groupe CBRE. Tout ça, cette approche, ça vous a prédestiné à ce rôle aujourd'hui ? Vous pouvez nous en parler ?
Alors, j'étais très marqué par personne interposée, puisque mon papa était déjà dans l'immobilier, par la crise de l'immobilier qui est apparue dans les années 90. Donc j'ai été longtemps officier dans l'armée de l'air après mes études, et je pense que j'ai tout fait pour fuir l'immobilier, et j'ai commencé ma carrière dans corporate finance, et je suis retombé par hasard et... en raison d'une histoire d'amour, dans je suis retourné dans l'immobilier, comme quoi on retourne toujours à ses origines, mais j'avais...
Alors là, il faut un petit peu expliquer une histoire d'amour avec l'immobilier, on imagine plutôt autre chose.
Non, en fait, je travaillais à Londres et ma compagne qui venait de La Réunion n'avait pas du tout envie de passer... Elle avait déjà passé l'océan Indien, passé la Manche, c'était déjà un peu trop. Donc je suis revenu à Paris et c'était la crise des télécommunications, des telcos. Et donc le marché corporate finance était un peu chahuté par cela. Et j'ai un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Bourdet qui m'a recruté pour essayer de monter un département corporate finance au sein d'une équipe qui s'appelait, enfin d'une entreprise qui s'appelait Bourdet. Et donc je suis retourné un peu par hasard dans l'immobilier avec une certaine crainte parce que c'est un métier de passion. Mais avec aussi des cycles. Ça fait des années qu'on est porté par des cycles qui sont très bons, mais il y a eu des moments un peu plus difficiles, on va dire.
Un autre point sur lequel je voudrais revenir, l'armée de l'air. Il faut nous raconter ça, Boris.
Alors, bah, écoutez, j'étais presque antimilitariste quand j'ai fait mon service militaire. J'ai fait mon école d'officier de réserve et dans la foulée, finalement, j'ai découvert une famille. J'ai fini major lors de mes classes et j'ai été muté à La Réunion. Donc c'était au départ ce que je pensais être des belles qualités de vie, mais c'est un secteur en fait où on intervenait surtout l'océan Indien, donc il y avait quand même des choses un petit peu délicates. Mais surtout j'ai découvert une famille, une certaine droiture. Et d'ailleurs c'est vrai que ça a été un grand écart de passer de l'armée au monde bancaire, où la notion de binôme et d'intérêt général était un tout petit peu différent, on va dire.
Vous en avez gardé quand même des choses de ce passé militaire qui vous sert encore aujourd'hui dans l'immobilier ?
Je pense, oui. Je pense, j'ai beaucoup de respect pour l'intérêt général, pour le respect des autres. J'en ai gardé, je pense, une certaine pudeur aussi qui est importante.
Je note aussi, on a toujours d'excellents invités, hein. Mais il l'a dit, Boris Capel, il est sorti major des classes. J'ai bien noté qu'il était major lors de ses études d'ingénierie immobilière. C'est pas par hasard que j'ai employé le mot de profil parfait au début. Il est modeste, mais franchement... On a du lourd, comme on dit, Johanna, sur notre plateau cette semaine.
C'est clair. Il va falloir tenir le niveau maintenant, Fabienne.
On essaye.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit moment sur le côté un peu business. Une question que j'avais envie de vous poser. On a parlé de la situation actuelle. Des bureaux qui doivent être revus, des tiers-lieux également qui sortent. Et puis du télétravail qui fait que les gens ont envie de moins se déplacer, d'être plus à proximité de tout. On parle de la ville du quart d'heure, cette ville où finalement tout serait accessible rapidement. C'est pas une aubaine pour une entreprise comme sa ville, ce qui est sur tous les fronts ?
Alors, il est certain que la ville va se repenser sur la ville. Et donc, ça crée un phénomène d'aubaine. Mais dans les phénomènes d'aubaine, il faut bien se dire que ça crée des secteurs porteurs et puis des secteurs qui souffrent. Dans n'importe quelle structure, lorsqu'il y a une naissance, il y a aussi un décès ou lorsque vous prenez en médecine, pour pouvoir que certaines cellules de bonne qualité se développent, il y a aussi des cellules qui meurent. Donc ça va créer des opportunités pour les métiers qui vont émerger. Ça va créer aussi des besoins de, et je vous parle de toute la filière immobilière, des besoins de reclassement, de reconversion, etc. etc. Donc c'est une énorme opportunité. C'est une énorme opportunité, mais aussi il faut être à l'écoute de l'ensemble des membres de cette filière et ça ne se fera pas au profit de tout le monde et de la même manière. Hein, on regarde, je vous donne un exemple, la logistique, parce qu'aujourd'hui on parle de l'économie digitale est en train d'exploser. Nos amis par exemple qui font de l'agence du letting ont eu une année 2020 très très difficile parce que finalement la demande en bureau, en locatif bureau a été plus difficile. Donc ça crée des opportunités, mais parfois à l'encontre d'autres.
Je ne sais pas si c'est ce qui vous intéresse, notamment dans l'immobilier. Il y a du concret. Ça demande effectivement beaucoup de réflexion, d'être visionnaire pour faire les bons paris. Quand nous avons contacté Raphaël Bro, directeur d'AEW France, il nous a dit effectivement que vous côtoyez dans la profession. On va l'écouter, ça va nous permettre de vous cerner un petit peu mieux encore. Raphaël Bro, bonjour. Vous êtes directeur général d'AEW. Vous connaissez depuis des années Boris Capel. Comment vos relations ont évolué au fil des années ?
Bien, bonjour. Oui, en effet, j'ai le plaisir de connaître Boris depuis plus de 15 ans maintenant. Alors tout d'abord, évidemment, nos relations se sont nouées dans le cadre professionnel et puis au fil des ans, elles se sont muées en une relation amicale. Donc je continue à côtoyer Boris dans les deux sphères, privées et professionnelles, évidemment en prenant le soin de ne pas mélanger les genres et de respecter notre intégrité professionnelle de part et d'autre.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes devenus amis au-delà de réflexions peut-être communes sur l'immobilier ? Est-ce que, en tant qu'homme, vous partagez d'autres choses ensemble ?
Oui, évidemment. Alors, au-delà des centres d'intérêt personnels communs, ce qui a fait que notre relation est devenue amicale, c'est avant tout un partage de valeurs que sont la loyauté, l'intégrité et la bienveillance qui font qu'on se retrouve sur beaucoup de sujets avec une convergence de vues qui permet cette proximité.
Qu'est-ce qui le caractérise, hein ? On est dans la séquence portrait, pour mieux le connaître, qu'est-ce qui distingue Boris Capel ?
Alors, une des valeurs que j'ai évoquées, hein, qui me vient à l'esprit, c'est cette grande bienveillance. C'est quelqu'un sur lequel on peut compter, qui dit ce qu'il pense, et donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui inspire confiance.
Ces qualités de meneur, pour vous, c'est très perceptible ? Est-ce qu'éventuellement vous avez une anecdote qui vous vient à l'esprit où vous voyez ces qualités appliquées, mises en œuvre ?
C'est un meneur parce qu'il donne l'exemple et donc il donne envie de suivre son exemple. Et sans citer d'anecdotes particulières, simplement, encore une fois, on a travaillé sur un très beau projet qui était la vente d'une tour à la Défense avec beaucoup d'efficacité. Et le rôle de Boris a été évidemment très moteur, pour ne pas dire principal, dans cette opération. Et pour autant, c'est le travail de ses équipes qu'il a su mettre en avant. Il n'a pas cherché à tirer la lumière vers lui, mais au contraire de promouvoir tout le travail effectué par ses équipes. Et là encore, j'ai trouvé que c'était une manière très élégante de mettre en avant sa maison et l'ensemble de ses collaborateurs.
Merci Raphaël Bro, directeur général d'AEW, pour ce témoignage très instructif. Au revoir. Vous signez de belles opérations, Boris Capel, avec le groupe Savills en France. Et quand on entend cette musique, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement les requins. On peut imaginer que dès que c'est le commerce et dans l'immobilier, c'est effectivement un coup de bazooka. Et on parle de bienveillance, de respect. C'est donc possible, alors ?
Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ce qu'a dit Raphaël. C'est que la personne qui mériterait d'avoir une émission qui porte sur le talent d'un homme, c'est plutôt Raphaël que moi.
Ah bah vous nous donnez des idées.
Hein, ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que je salue aussi son intégrité. Et c'est vrai que c'est un copain avec qui on a toujours su faire la part des choses entre, d'un côté, l'amitié et la haute estime que l'on a pour cette fonction et cette corporation. Et ça fait la transition toute trouvée à cette notion de bienveillance. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas bienveillant par essence, par substance, de toute façon dans ce métier il faut l'être parce que c'est un métier d'homme. C'est un métier où il n'y a pas de stock. C'est un métier où on crée du service. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est avoir ce sentiment apaisé de travailler ensemble, de créer de la valeur ensemble. Alors certes, dans notre métier, il y a des gens qui font des coups une fois, deux fois, trois fois. Bon, très bien, il y a un élément de chance. Mais à terme, ils s'usent et ils ne durent pas. Et si on veut durer, si on le fait pas par essence ou par nature, au moins il faut le faire par déontologie et il faut être bienveillant et respecter les gens.
un métier d'homme et de femme, comme sur ce plateau. Vous avez vu, les femmes ont pris le pouvoir. Johanna, je vous rends le micro.
C'est bien trop rare sur Radio Imo, alors on va en profiter, un petit peu. Ça pourrait être un sujet qu'on n'abordera peut-être pas, mais la parité dans l'immobilier, c'est encore un peu compliqué. Hein.
Alors la parité dans l'immobilier, c'est un petit peu compliqué. Alors d'abord, ne vous méprenez pas quand j'utilise le terme homme, mais vous avez raison parce que c'est un truc, c'est quelque chose aujourd'hui où il faut derrière chaque mot utiliser une définition. Quand j'utilise vraiment le terme homme, il est vraiment au sens littéraire du terme. Mais pour moi, ça va peut-être être choquant, mais nos métiers sont totalement asexués. Moi, ce que je vais chercher, c'est des talents. Et je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que nous avons fait croître la part des femmes chez nous. Je ne suis pas pour une discrimination positive parce que ça n'est ni flatteur pour la personne qui est recrutée sur le simple principe d'un genre, ni dans l'intérêt de l'entreprise. En revanche, je crois aux grands équilibres. La vie est faite de grands équilibres. Et je suis un ancien militaire, donc je peux vous dire que ces grands équilibres étaient sacrément cassés lorsque j'étais à l'armée. Et dès lors que j'arrive dans des moments où l'équilibre se retrouvait, il y avait une vraie créativité qui se mettait en place. Donc cet équilibre, il est nécessaire. On a fait croître le nombre de jeunes femmes chez nous, mais non pas aussi par convenance. On ne s'est pas dit du jour au lendemain, on ne va n'avoir plus que des assistantes jeunes femmes et puis des hommes qui sont directeurs et donc on sera à 50-50. Moi, aujourd'hui, j'ai un COMEX qui est de plus en plus équilibré je cherche à équilibrer mes différents postes de direction. Je ne le ferai pas, comme vous l'avez compris, sur le principe d'une base discriminante, parce que la discrimination positive n'est positive pour personne, je n'y crois pas. Je pense que c'est juste un outil pour arriver à ses fins. Le sujet, par contre, que l'on a, c'est que quand on vit dans un métier où il y a eu longtemps une longue présence des hommes, il y a toute une classe d'âge qui est omniprésente et qui est gendrée forcément, et donc qui est masculine par définition, et donc il y a encore des métiers où il est difficile de trouver des talents, mais ça change parce que les nouvelles promotions, le nouveau vivier de talents arrive.
Je crois qu'il a choisi une chanteuse comme musique, n'est-ce pas, Johanna ?
Oui, on est à mi-chemin de l'émission, donc on va en profiter pour faire cette petite pause musicale. Je sens que vous l'attendez, Fabienne.
Oui, j'aime beaucoup Camélia Jordana.
Votre deuxième choix, c'est exactement, ça s'appelle The Thrill Is Gone. Alors, c'est une reprise de Bébé King par Camélia Jordana et Eric Truffaz. Avant qu'on l'écoute, Boris, je vous laisse la parole. Pourquoi ce titre ?
Parce que c'est le talent d'une voix avec un trompettiste absolument incroyable que j'ai vu plusieurs fois en concert et cette façon de revisiter un grand classique finalement est une grande réussite et quand ils disent que The Thrill Is Gone, je n'y crois pas du tout parce que j'en ai vraiment la chair de poule à chaque fois que je l'entends.
Mais voilà, c'est vachement mieux vendu que moi, bravo Boris. On l'écoute tout de suite.
It's gone. The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can feel it in your sighs. Feel your touch and so are
de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On reprend le fil de cette interview, Boris Capel, parce que on le voit, votre groupe est présent sur énormément de domaines. Et j'aimerais vous interroger sur les entrepôts. On a beaucoup parlé du commerce en ligne en plein essor dans ce contexte pandémique. Et donc, les lieux de stockage, les entrepôts deviennent clés. C'est une perspective de développement accrue pour le groupe Savills ?
Alors complètement. On va développer cette ligne de métier. On continue à la développer tant en France que sur notre maillage international, avec un recrutement récent d'un garçon qui s'appelle Florian Moreau, qui est venu nous aider dans le développement très récemment, puisqu'il est arrivé le 2 janvier parmi nous. Oui, on est porté par plusieurs choses, par le commerce en ligne, par la logistique du dernier kilomètre. Récemment, on a vendu un terrain à l'entrée de Paris pour développer peut-être ce qu'il sera un des plus gros entrepôts logistiques du dernier kilomètre. C'est une vente qui s'est faite à la fin de l'année dernière. Et globalement, on va renforcer ces différents départements, tant en France qu'à l'étranger. Et donc, on recrute d'ailleurs énormément dans ce secteur.
J'allais venir. Merci de nous faciliter la transition. Vous recrutez à tour de bras. Voilà, comment ça s'articule dans le développement ? Quel type de profil ? On peut également lancer des messages sur Radio Immo.
Alors, on a fait, pendant la crise de la Covid, parce qu'il y avait une quête de sens, un travail sur nos valeurs. Et parmi les valeurs qui sont ressorties en premier, et on a sollicité toutes nos équipes, est ressortie la bienveillance, j'en suis ravi, l'excellence, le travail en équipe et l'entrepreneuriat. Et comme préalable finalement à nos recrutements, déjà, je souhaite que nos collaborateurs, nos futurs collaborateurs, puissent se reconnaître dans ces différentes valeurs, parce qu'elles sont essentielles, elles sont consubstantielles, elles doivent constituer ce que nous sommes demain. Sur les différents recrutements que l'on a, toutes nos lignes de métiers existantes sont en cours de recrutement actuellement, sur des postes juniors, et aussi senior. Et vous l'avez compris, on va développer tout le maillage région. Donc là encore, on est à l'écoute du marché.
On comprend, c'est un financier, un développeur également. Il vous impressionne, Johanna ?
Il m'impressionne, surtout à l'écoute des témoignages qu'on a entendus tout le long. Et d'ailleurs, on va peut-être en profiter pour revenir sur l'homme que vous êtes. Ils ont tous souligné votre bienveillance. Est-ce que c'est important pour vous d'être un homme et un manager bienveillant ?
Je pense qu'il y a eu une fracture qui s'est créée dans le management au fur et à mesure des années, et que si on regarde encore certains films des années 70-80 sur le management, on voit que ça a totalement explosé et qu'on a cassé certains codes. J'en suis ravi. Attention, je suis pas non plus pour une gestion, comment dire, collective de l'entreprise, ou encore un organigramme plat et un égalitarisme, pas surtout lorsqu'on atteint une certaine taille critique. Et d'ailleurs, c'était la question qui s'est posée à un moment ou à un autre, de passage de start-up à passage de TPE, avec demain une entreprise qui a vocation à être plus grande. Mais quoi qu'il en soit, parce que c'est plutôt le terme consacré, je pense qu'il faut des lignes conductrices, et la bienveillance en est une et qui est essentielle. D'abord parce qu'il faut motiver les gens, et il faut se sentir écouté. Dans le nouveau management, je pense que la confiance a priori est une chose essentielle. On va chercher des compétences, on est à l'écoute et on responsabilise les gens. Et ce que veut dire la bienveillance, c'est qu'on n'accepte pas tout non plus. Et que parmi mes amis, j'en ai un qui dit souvent « ta susceptibilité vaut bien la mienne ». C'est un peu cette notion de liberté interpénétrante. C'est-à-dire que la bienveillance, elle s'arrête à un certain moment, dès lors qu'elle touche à quelque chose qui rentre dans l'intime. Mais pour l'essentiel, en fait, c'est un rapport de confiance mutuelle, de création mutuelle, de respect de l'autre, dans toutes ces différences.
Donc quand on est dans un grand groupe international créé depuis 160 ans, dont le style de management, il reste de la marge pour mettre la French touch et tout simplement la Boris Capel touch, alors je devrais dire.
Alors, j'ai un actionnaire qui est assez formidable parce qu'on a un rapport de confiance assez important. Je pense aussi que lorsque l'on apporte comme terme la bienveillance et qu'on rapporte ça avec les objectifs ESG des différentes entreprises, on se rend compte que finalement, on est complètement dans le sens de l'histoire. Donc, ça tombe bien. Et qu'à l'inverse, proposer un management contradictoire irait complètement à l'opposé du sens de l'histoire. Donc, j'espère que notre société ne pourra pas être autrement que bienveillante. Mais ça implique des obligations réciproques.
Est-ce que même dans vos amitiés, on retrouve des grands spécialistes de l'immobilier? Nous avons préparé l'émission en parlant également à Étienne Marco. Il dirige le family office du groupe Patrizia, autre acteur extrêmement important. Je vous propose de l'écouter, on en parle après. Étienne Marco, bonjour. Vous êtes un ami de Boris Capel. Ça date du milieu professionnel. Racontez-nous votre première rencontre.
Oui, absolument. Au milieu professionnel, on s'est rencontré avec Boris il y a plus longtemps que je n'oserais le dire. Il était à l'époque un peu débutant chez CBRE et moi j'étais chez Gecina. Et j'ai fait travailler les équipes de capital market de CBRE pour nous aider sur la vente d'un gros portefeuille d'actifs tertiaires. Et à cette occasion, j'ai tout de suite remarqué Boris dans ce qu'il avait d'un petit peu différent, cette façon qu'il avait de se démarquer du milieu de pure broker dans lequel il était déjà à l'époque.
Qu'est-ce qui le distingue précisément ?
Moi, je trouve que ce qui distingue Boris, c'est de mettre une dimension affective, toujours, mais dans le meilleur sens du terme, dans la gestion et pilotage de ses relations professionnelles. Et c'est surtout de placer très haut une esthétique du travail. Là encore, comme une valeur cardinale dans le pilotage, j'imagine, de son entreprise aujourd'hui, mais en tous les cas de sa technique professionnelle depuis que moi je le connais.
Quand on est broker, on jongle avec les notions financières. Est-ce que c'est juste de la réflexion financière quand on l'écoute, Boris Capel ?
Non, justement, c'est pour ça que je faisais référence à la notion d'esthétique, pour faire référence à la capacité qu'a Boris à replacer l'immobilier dans le contexte qui est le sien. L'immobilier, c'est donc un actif réel qui est situé dans un environnement urbain et qui, à ce titre, est imbriqué dans des enjeux qui sont des enjeux économiques et sociaux. Et dans son approche de la valeur, Boris est quelqu'un qui contextualise et place en perspective l'immeuble, encore une fois, pour en apprécier l'intégralité de sa valeur. Et moi, c'est ce que j'aime chez lui.
Là, c'est son émission. Il est en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
J'ai envie de lui dire, Boris, surtout ne change pas. Tu t'es forgé une personnalité à part, avec beaucoup de richesse. Tu fais aussi partie de ces gens avec qui on peut passer de longues heures à parler autre chose que de l'immobilier. Et ça fait partie des choses que moi, non seulement j'apprécie, mais plus fortement que j'aime.
Merci Étienne Marco. Il est actuellement en charge du family office d'AM Alpha. Merci pour cet éclairage sur Boris Capel. Au revoir. Souvent, quand on parle avec des dirigeants, on parle de mots comme performance, management, résultats. Et là, Étienne Marco parle de vous en citant le terme esthétique de travail. C'est une exigence chez vous ou c'est inhérent à votre personnalité, cette approche esthétique ?
Alors, pour moi, la performance, c'est un prérequis. Et j'adore le tennis. Et si vous prenez comme exemple le tennis, il y a deux manières de gagner un match. Il y a le gagner un match avec élégance.
En Australie ou en France, hein, faudra voir.
Alors, en ce moment, il y a des personnes qui sont plus ou moins élégantes dans le monde du tennis. Et puis, on peut gagner avec un match qui sera superbement esthétique, chargé en émotions, chargé en humanité. Et c'est cette deuxième voie que j'ai toujours préférée. Et je préfère parfois perdre plutôt que d'y perdre une certaine élégance, etc.
Il y a des
perdants qui sont des gagnants.
Alors, j'ai été classé, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai joué contre Raphaël Bro, hein, je peux le dire.
Ah, je crois que c'était Nadal. Peut-être qu'il vaut mieux Raphaël Bro.
J'ai été classé. Il y avait très longtemps que je n'avais pas joué. Et là, une fois de plus, ce n'est pas moi qu'il fallait interviewer aujourd'hui. C'est monsieur Raphaël parce qu'il m'a humilié. Et il sera très fier de l'entendre.
Oui, le sport, c'est des belles valeurs. Le groupe est amené à s'investir. Il y a des groupes qui s'investissent sur la voile, le football, le groupe immobilier. Vous êtes mécène aussi ?
Alors, la vocation des groupes immobiliers n'était pas encore aussi marquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Avec notre dynamique ESG, on va continuer à supporter des actions caritatives. On a d'ores et déjà commencé à le faire en fin d'année. On va aider aussi des actions ponctuelles autour du sport, parce que c'est fédérateur. Mais là encore, c'est un métier qui fait sa mue. Et je pense qu'on va dans le bon sens.
On apprend mieux à vous connaître en écoutant ces témoignages. Moi qui ai préparé avec les collaborateurs, les collègues que j'ai pu croiser, il y a un mot qui revient, c'est de la musique. Vous écoutez de la musique tout le temps. C'est quoi ? Ça vous inspire ? Racontez-nous votre rapport à la musique. Et peut-être que l'immobilier est une musique aussi pour vous.
Alors, je pense que la musique, en fait, c'est quelque chose d'absolument intemporel. Ce sont que quelques octaves, mais finalement avec des possibilités illimitées. Et il y a toujours quelque chose qui peut rendre la musique disruptive et changeante. Et donc je suis à l'écoute de l'ensemble des différents styles musicaux, parce que je pense que c'est relativement important. Il y a quelques années, quand les nouvelles technologies sont arrivées, je me rappelle, il y avait un réseau qui s'appelait Napster, et je me suis dit, on est en train de créer une grande Babel de la musique.
Ça sera plus, sans Napster fin.
Alors, le business économique, le business model a significativement chuté, et aujourd'hui, ça se fait au profit de Deezer, de Spotify et consorts. Mais à partir du moment où on est rentré dans cette grande Babel, d'un seul coup, on est sans fin, sans limite, et c'est une vraie gourmandise c'est une vraie gourmandise que d'aller toujours un peu plus loin. D'ailleurs, pour citer que ce soit Deezer, Spotify, etc., ce qui est vraiment dommage, c'est que l'économie a pris ses droits et qu'au fur et à mesure, on perde certains auteurs qui sortent de cette Babel-là, parce que justement, ce qui est formidable dans cette gourmandise, c'est qu'elle est sans fin et qu'on n'est jamais rassasié.
Quelle est votre pratique de la musique ? Est-ce que vous jouez d'un instrument ?
J'ai chanté pendant longtemps, je n'ai aucun talent musical et c'est mon plus grand regret. Du coup, j'ai tout transféré sur mon fils qui a une pression monstrueuse.
Quelle est votre tonalité quand même quand vous chantiez ? Quel registre ?
Je chantais à l'église et voilà, donc j'étais baryton. Mais bon, ça c'est très très loin derrière moi.
Bon, votre fils, qu'est-ce qu'il fait ?
Il fait du piano.
C'était l'instrument que vous vouliez ou c'est lui qui a choisi ?
C'est lui qui choisit.
Quand même.
Il n'y aura aucune frustration.
Bon, il est doué ?
Je lui souhaite de faire de belles études.
Fabienne ?
Eh bien, effectivement, on ne sait pas quel temps vous reste pour les hobbies, pour les amis. On voit qu'ils existent. Mais on peut imaginer qu'être à la tête de Savills France, c'est quand même un poste à plein temps. Il vous reste un petit peu de temps pour le loisir, franchement ?
Alors, j'adore faire la cuisine. Donc, le soir, quand je rentre chez moi pour me calmer, je fais de la cuisine. Et puis...
Donc, il peut être énervé, Johanna. Hein. Enfin, on arrive à déceler quelque chose.
Et puis, le week-end, samedi matin et dimanche matin, il y a 3 heures de sport. Donc, ça fait 6 heures de sport tous les week-ends. Ça, c'est une nécessité. C'est une hygiène de vie.
Vous courez ? Vous allez à la salle ? Vous faites quoi ?
Tennis, course à pied, salle. Tout ce qui peut ressembler à un sport de près ou de loin.
Est-ce que dans ce groupe, vous vous dites, vous êtes à la plus haute marche et c'est assez récent. Vous êtes dit, tiens, je vais imprimer ma marque. Comment inscrivez-vous votre mandat assez récent ? Cette progression a été assez fulgurante. Comment l'envisagez-vous ?
Écoutez, je regarde ça avec une certaine candeur parce que ce n'était pas un objectif de vie. Donc c'est une chance de pouvoir travailler tous les jours pour les 180 collaborateurs avec lesquels je travaille et j'essaye de donner du mieux que je peux pour les aider à développer cette entreprise et qu'ensemble on aille plus loin.
Et c'est vrai que vous le disiez au départ, votre père travaillait dans l'immobilier. Alors, est-ce que vous dites ça aujourd'hui ? Peut-être c'était un moteur. Vous avez réussi à vous faire un prénom ou bien une marque, Savills ?
Écoutez, pour l'instant, je suis un parmi les autres.
Merci beaucoup, Boris Capel. Le temps file, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Une dernière question, parce qu'on est quand même encore au mois de janvier et que c'est toujours le moment des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année et pour les autres ?
Ah, je ne vais pas être très original, que cette pandémie s'arrête, que les gens puissent retrouver leurs liens sociaux, qu'on puisse avancer ensemble.
Il est vraiment parfait. Hein.
Et il nous fait découvrir des musiques. Je ne sais pas si vous connaissez
son dernier
titre. Et il nous fait
exactement, on va se quitter là-dessus. Puis en plus, c'est un super... Je vais vous laisser le présenter, hein, parce que je n'arriverai clairement pas à prononcer ce nom. Donc je vous laisserai le faire. Le temps de vous remercier, Boris Capel, président de Saville France,
merci
d'avoir été avec nous ce matin pour le Mac de Limo. De vous remercier également vous, Fabienne, d'avoir été
c'est
à mes côtés.
C'est un plaisir,
ce
Johanna. Vivement la prochaine.
Vivement la prochaine. C'est vendredi prochain. Ça tombe bien. En attendant, on se quitte avec le dernier morceau. Le titre s'appelle Monument et je vais laisser notre invité Boris Capel nous donner le nom de l'artiste.
D'abord, merci beaucoup. Et ensuite, c'est important d'avoir un peu d'éclectisme. Ça, c'est de la musique électro. C'est un groupe que j'ai découvert au tout début des années 2000 avec leur premier album. C'est un groupe qui vient des pays du Nord, qui s'appelle Rocksop, et qui est absolument génial et qui n'a jamais eu de cesse de se réinventer. Et ça aussi, c'est une chose importante. Il faut toujours se réinventer.
Allez, c'était parfait. Merci beaucoup, Boris Capel, d'avoir été avec nous. On écoute tout de suite Monument. On se quitte dans quelques instants eh bien, à l'Aura du Rimo, comme chaque vendredi. Exactement. Également à venir dans nos programmes l'Hebdo Copro hein, de Gilles Frémont. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro du Mac de Limo. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un très beau week-end et on se revoit très bientôt.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.